Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier, en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Sepia sur Radio Immo et Radio Territoria.
Rebonjour les amis, il est 12h33 exactement, nous sommes toujours en direct ici sur Territoria et Radio Immo. Merci d'être avec nous, nous sommes en partenariat également avec nos amis de Procivis sur le plateau et on fait le tour des personnalités de l'immobilier pour prendre également la température du marché. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau quelqu'un qu'on connaît bien, qui d'ailleurs a fait pas mal d'émissions avec nous, d'ailleurs sur l'accession sociale à la propriété notamment. Il est maintenant le président du directoire du groupe Quadral, c'est Kamel Aoudia. Bonjour Kamel.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va ?
Bien, très bien. Ça va bien, vraiment bien.
Je suis content d'être là. Un congrès blindé de monde.
Oui, alors.
Incroyable.
Contrairement à ce qu'on nous annonçait, moi, depuis. C'est un peu comme les Jeux Olympiques, tu vois.
Oui, exactement.
On nous annonçait le cataclysme avec personne dans les gradins.
C'est vrai, c'est
et on n'arrête pas depuis. Et on en est très content parce qu'on voit l'ensemble de nos clients. Donc,
oui.
On est vraiment ravis, ça nous met un baume au cœur incroyable. Une vraie patate pour continuer.
Donc, alors, historiquement, le groupe Quadral a toujours été à H-Expo, hein, au Congrès de l'Union sociale pour l'habitat.
Ça fait 20 ans cette année.
Ouais. Voilà, c'est historique. Hein.
Alors oui, effectivement, il y a 20 ans de ça maintenant, les personnes qui m'ont précédé ont fait le choix de venir représenter les services du groupe Quadral au sein du congrès USH H-Expo. C'était pas facile. Ils avaient, à l'époque, c'était essentiellement de la vente HLM, hein, on appelait ça comme ça à l'époque. Mmh. Ils étaient venus à quelques-uns défendre les couleurs de Quadral et proposer leur service. Ils étaient sur un stand de 5 mètres carrés, inconnu au bataillon.
C'est vrai.
Avec aussi, face à eux, des gens un peu hostiles parfois, parce que vente HLM auprès de bailleurs, c'était un peu compliqué en 2004. Pourtant, ils ont fait le choix d'y venir, d'y revenir, de continuer à travailler et de convaincre. Et puis, c'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui. Donc, aujourd'hui... date à laquelle on va fêter nos 20 ans pile, pas plus tard que tout à l'heure à 17h. C'est à eux que je pense et c'est à eux que je voudrais rendre hommage.
Alors on viendra d'ailleurs avec grand plaisir sur votre plateau pour fêter dignement ces 20 ans. L'accession sociale à la propriété, c'est un gros enjeu.
Oui,
pour vous.
Oui.
C'est un enjeu important. Alors, avant d'entrer dans le sujet, parce que je sais qu'actuellement vous travaillez sur des très gros appels d'offres,
absolument,
justement, qui sont très stratégiques pour votre groupe, bien évidemment. Et vous êtes d'ailleurs aujourd'hui considéré comme l'un des grands spécialistes de l'accession sociale à la propriété. C'est hyper important parce que c'est pas exactement le même mécanisme que l'on connaît traditionnellement. Je voudrais vous expliquer c'est quoi, Kamel Aoudia, l'accession sociale à la propriété.
Alors aujourd'hui, dans l'accession sociale à la propriété, on regroupe un peu tout. On parlait d'il y a 20 ans, l'accession sociale à la propriété, c'était de la vente HLM. Aujourd'hui, l'accession sociale à la propriété, on y met effectivement la vente dite dans l'ancien, on y met la vente dans le neuf avec le PSLA, le BRS notamment. Donc aujourd'hui, c'est tout ça. Chacun est particulier, chacun a ses mécanismes, et il faut réussir à vendre chacun de ces... C'est en cela qu'on diffère un peu une agence immobilière classique, et c'est sur ces points-là qu'on tente de convaincre nos clients bailleurs de notre savoir-faire, notre spécificité et des capacités qu'on est en mesure de mettre en œuvre pour eux. La vente HLM, on n'aborde pas un locataire occupant comme n'importe quel prospect. J'ai eu à l'expliquer ici plusieurs fois et je le redis.
En fait, vous vendez dans... alors, c'est une question qu'on nous pose. Hein, souvent,
oui.
On vend l'appartement qui est déjà occupé par les occupants.
Absolument.
Et c'est les occupants, eux, qui l'achètent.
Absolument. En fait, c'est assez simple chez Quadral Transactions. On a 42 commerciaux sur 16 points d'implantation en France, dont les bailleurs confient une partie, hein, c'est pas l'intégralité de leur parc, mais une partie de leur parc qu'ils ont déterminé comme pouvant être vendu. Et ensuite, mes équipes interviennent, je te la fais très schématique, mais une réunion d'information dans laquelle on délivre et dans laquelle on rassure, parce que très clairement, si ces locataires ne souhaitent pas acheter, ils restent dans le logement sans aucune autre forme
de
problème.
D'accord.
Charge à nous de les convaincre, je parle de persuasion douce en général parce que on n'est pas là pour les brutaliser, on est là pour réaliser le rêve de 70% de Français, c'est-à-dire devenir propriétaire.
Et ils le comprennent très largement.
Et ils le comprennent très largement. Et
parce que en plus vous les accompagnez, parce que quelqu'un qui a jamais accédé à la propriété, qui est dans un logement social, il se dit c'est pas pour moi.
Ben remarque qu'on nous formule.
Il doit y avoir une grande fierté. Je sais que vous avez vécu des situations extraordinaires.
Il y a quelques années, Laurence Donato, une de mes commerciales, de nos commerciales et collègues sur le Nantes, a accompagné un monsieur de 82 ans qui avait un rêve, qui était de devenir propriétaire, qui n'a jamais pu le faire. Elle l'accompagnait. Donc, c'était très beau et très touchant. Il arrivait avec une cravate, un blazer, il était apprêté. C'était magnifique à voir. Et elle l'accompagnait étape par étape à la banque, chez le notaire, etc., etc. Et ça a été un magnifique moment. Je ne vais pas te dire que c'est tous les jours comme ça,
non.
Mais notre métier, c'est d'accompagner les gens
mais
du début jusqu'à la fin.
Un foyer avec un couple qui a des enfants, qui se dit qu'ils aimeraient transmettre quelque chose, mais aussi un autre aspect, quand
oui.
même, c'est de se dire que dans 20 ans, 30 ans, quand je vais peut-être quitter la région parce que je serai à la retraite, j'aurai un petit pécule parce que j'aurai acquis oui. la propriété du lieu dans lequel j'occupe.
Il y a toutes ces dimensions-là. Aujourd'hui, effectivement, les points sur lesquels on essaie de sensibiliser les locataires, c'est... Il n'y a pas de meilleure protection que d'être propriétaire.
Ah,
de prendre toutes les assurances que vous voulez. La meilleure assurance, c'est encore celle-ci. Donc si vous pouvez le faire, faites-le. Alors ça nécessite qu'on travaille avec eux sur la faisabilité. Je disais tout à l'heure qu'on ne brutalisait personne. Nous n'enverrons jamais un locataire à l'accession s'il n'a pas les moyens de faire face non seulement aux échéances bancaires qui sont les siennes, mais aussi, quand il achète en collectif, aux éventuelles aux échanges de copropriété
bien
qui
sûr.
Sont les siennes. Tout en sachant que lorsqu'on accède à la propriété sur le patrimoine de bailleurs sociaux, ces derniers ont fait en sorte qu'il n'y ait pas de vague sur les 5, 10, voire même 15 prochaines années sur l'immeuble. Donc on a refait les communs, on a refait les façades, on a refait
oui,
la toiture.
En termes de charges, bien sûr.
En termes de charges, c'est quand même drivé.
Et ça, vous l'analysez bien, c'est
alors
votre spécialité.
On analyse,
oui,
et surtout...
Ça, vous savez le faire, oui, bien sûr.
Et surtout, on l'annonce, c'est-à-dire quand les gens achètent avec nous, parce que tel bailleur vend... Oui. Ils ont l'ensemble des charges qui seront
les leurs. Est-ce que vous leur trouvez éventuellement une banque s'il y a besoin ?
Oui, bien sûr. Aujourd'hui, chez Quadral, nous avons développé une structure qui s'appelle Quadral Conseil en Financement et dont son activité est d'être un courtier. Pourquoi ? Pas parce qu'on a envie d'être un courtier ou se mettre à dos qui que ce soit.
Oui, c'est pour obtenir des transitions.
Il se trouve que pour plein de raisons, Axio Logement a pas pu rester complètement sur cette activité de courtage et donc a laissé un petit trou dans la raquette. Certaines de leurs filiales nous ont demandé si on pouvait prendre le relais. Et nous-mêmes, on s'est vite aperçu que les courtiers avaient triplé leur prix, leur commission suite au début de la crise, ce qui n'était pas satisfaisant pour nous.
Non, c'est clair.
On n'était pas là pour...
Et du coup
ouais. on a monté notre propre société où on facture de l'or entre 600, selon qu'on est locataire occupant ou pas, entre 600 et 1000 euros les frais quand parfois ils sont à 3000 voire plus chez d'autres courtiers.
Alors question, justement, sur la rotation et l'accession à la propriété. Des questions très basiques.
Oui, bien sûr.
Est-ce que ça coûte plus cher de devenir propriétaire et de locataire ? Je prends un exemple. Je vous donne un exemple.
Oui.
Mais je suis sûr que vous le rencontrez au quotidien. Écoutez, j'aimerais bien être propriétaire, mais moi je paye déjà 500 euros de loyer. Si je deviens propriétaire, ça va me coûter plus cher, j'ai pas les moyens.
Oui.
Mais j'aimerais être propriétaire, j'ai un petit salaire, j'ai pas un gros salaire. Est-ce que ça coûte plus cher ou est-ce que vous arrivez finalement dans le mode de financement à dire sur l'étalement des mensualités en fonction du coût réel du logement, ça vous fait un gap qui est pas forcément plus élevé ou légèrement plus élevé ?
Alors, il y a quelques temps de ça, on avait fait une analyse sur Vendeuve, qui est une ville dans l'est de la France. Où il fallait effectivement convaincre le maire de l'intérêt de continuer les ventes HLM parce qu'il n'en voyait pas l'intérêt. Et on s'est rendu compte après analyse sur plusieurs années que pour devenir propriétaire, les gens avaient eu à mettre 20 euros de plus sur leur loyer pour devenir propriétaire.
Tous les mois ?
Tous les mois.
Ah, c'est bien.
20 euros. Au-delà de ça, aujourd'hui. Alors, effectivement, le monde a un peu changé.
Oui, avec un peu de moins, oui. Ouais,
le monde a un peu changé.
Il n'empêche que. Si on faisait une photographie à date.
Oui.
C'est marginal, je veux dire.
C'est marginal. Et au-delà de ça, il y a certes le loyer qu'on peut regarder. Et quand on commence à analyser ce qu'on est capable de faire sur le financement, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que quand on acquiert un bien qui est un bien venant du parc HLM, on a le droit à différentes aides, PTZ, etc. Toutes ces aides-là, que parfois les banquiers eux-mêmes parfois ne connaissent pas. Alors le PTZ ils connaissent, mais il se trouve qu'il y a des collectivités qui mettent en place des prêts.
Vous savez, il y a certains banquiers qui ne savent pas le faire, hein, mais bon.
Alors, celles qui sont présentes ici, en général, ça va.
Oui. Ah oui,
celles qui sont un peu plus spécialisées, parce que...
Ou plus pratiquement patrimoniales, oui.
Voilà, patrimonial, non. En revanche, là, sur
les dossiers... Parce qu'ils ont accès,
ils
ont accès au PTZ, ils ont accès aux aides.
Différentes aides.
De PSLA pour le neuf.
Et parfois de taux de sur certains départements de frais de notaire réduits. Un dossier tout simple. Il y a 15 jours de ça, Aujourd'hui, les taux, c'est 3,5, 3,8 sur 20 ans.
Voilà, absolument.
Avec, quand on a commencé à plugger sur ce taux-là, les différentes aides d'Action Logement que je remercie, mais aussi des différentes collectivités, ce taux nominal-là est passé à 1,8. C'est-à-dire que quand tu mets la combinaison avec les différés d'amortissement,
bien sûr,
sur l'ensemble du prêt, nous étions descendus à 1,8.
C'est énorme.
C'est colossal.
Ça, non, ce qui est énorme, et je trouve ça vraiment remarquable, c'est la resolvabilisation immédiate.
Ça, c'est notre job.
De toute une catégorie de Français, notamment, je parle aux couches, les classes moyennes,
oui,
qui ont été vachement reléguées et exclues du marché, du parcours résidentiel pour l'accession à la propriété, parce qu'on est d'accord quand même, le ventre du marché, c'est la primo-accession.
C'est la primo-accession. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Le problème, c'est que les primo-accédants ne sont plus là.
Et les primo-accédants ne sont plus là. C'est pas tant... c'est parce qu'ils n'ont plus accès au crédit.
Absolument.
Le mur du... comme dirait... Je reprends les termes de votre prédécesseur, justement, qui était sur le plateau, Fabrice Aubert, directeur général adjoint du groupe Nexité, qui dit on se heurte au pied à un mur du crédit.
Oui.
Et souvent... Alors, c'est déprimant, parce que qu'est-ce qu'on fait? On va sur Internet. On fait une simulation de taux.
Oui.
On indique ses revenus et on se dit, ah, tout de suite, j'ai droit à rien.
C'est ça.
Et on n'imagine même pas que son propre appartement dans le logement social qu'on aimerait acheter,
oui,
eh bien, on puisse y avoir accès. Parce que ça aussi, c'est important.
Alors,
je suis sûr que vous avez des personnes que vous avez contactées qui vous ont dit, je ne pensais pas que je pouvais acheter.
Tout le temps. Après, ils ont plusieurs chances. La première, c'est qu'ils ont affaire à des bailleurs qui sont plutôt bienveillants à leur endroit.
Eh bien oui.
Déjà.
Est-ce qu'il y a une décote ?
Il y a une décote.
Vous mets. Est-ce qu'il y a une décote ?
Oui.
Je suis locataire depuis 20 ans.
Oui.
Est-ce qu'il y a un ratio
alors,
qui est appliqué ?
Non, pas selon l'ancienneté. Les bailleurs ont tout loisir de faire comme ils l'entendent sur le sujet. Mais mm-hmm. Habituellement, certains bailleurs ont procédé par ancienneté, mais très vite, ça crée des dissensions et des injustices. Donc, les bailleurs font expertiser le patrimoine, ne font pas n'importe quoi. C'est un patrimoine qui a été acquis avec de l'argent public par ailleurs. Mmh. Ils le font expertiser. Mmh. Et ensuite, effectivement, pour les locataires occupants, une décote s'opère. En moyenne, elle varie entre 10 et 15%. Certains, même chez 3F, hein, sont allés plus loin, jusqu'à 20% de décote par rapport à un prix de marché. C'est conséquent en termes de resolvabilisation.
Ah,
la resolvabilisation commence par là. Ça commence par là. Ensuite, il y a tout un travail effectivement sur l'accompagnement financier, ce que nous faisons aujourd'hui chez Quadral via Quadral Conseil en Financement. Beaucoup de bailleurs, par ailleurs, nous appellent sur ce volet-là. Il se peut, on ne travaille pas avec tous les bailleurs. Parfois, les bailleurs ont leurs propres commerciaux en interne. Ça arrive et tout va très bien. Par contre, on nous appelle pour aider leur accédant à se solvabiliser via Quadral Conseil en Financement.
La transaction que vous opérez,
oui,
vous l'opérez avec des personnes. Ce qui diffère du marché de la transaction traditionnelle, c'est que vous avez et le bien et le client potentiel.
Absolument. Souvent, oui.
Non, mais
la grande différence, c'est oui, ce que je dis à mes commerciaux, votre client, il est à l'intérieur.
Voilà. Donc, oui, c'est... Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de prospection, mais oui, il n'y a quasiment pas... vous avez... Oui. On vous mandate, et d'ailleurs, vous êtes les seuls à être mandatés.
Oui, absolument.
C'est une forme d'exclusivité sur un parc.
Comment est-ce que ça fonctionne chez Quadral Transactions ?
Ouais.
Nous répondons à des appels d'offres.
Ouais.
Les bailleurs.
C'est toujours des appels d'offres ?
C'est toujours des appels
d'accord,
d'offres.
Okay.
Ils sont effectivement soumis à une réglementation très stricte.
Avec un cahier des charges.
Oui, absolument. On répond à des appels
d'offres.
On
vous donne tant, 7 ans, il y a tant de logements.
Chez Quadral Transactions, c'est effectivement.
Faites-nous une propale. Ouais.
Faites-nous une proposition, votre meilleure proposition, et nous ne facturons que la vente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre forme d'honoraire. Qu'un taux, comme l'agence immobilière
vendu, payé, pas payé.
Par contre, on met tout un process en amont. Pourquoi vient-on nous chercher ?
Les diags, c'est pas vous qui faites les diags.
Alors, ce n'est pas nous qui les faisons, puisqu'on n'a pas de diagnostiqueur. En revanche, nous les pilotons au sein de chez Quadral,
d'accord,
pour le compte des bailleurs.
Est-ce que c'est... Oui, mais c'est pas vous qui financez ça. Voilà, d'accord.
Non,
les
bailleurs payent en qualité de vendeur, payent les diags.
Pourquoi ils vendent ?
Pourquoi ils vendent ?
Ouais.
Bah, tout simplement parce que... Historiquement, c'était clairement vendre pour réinvestir.
Oui.
À l'époque où moi j'ai démarré, c'était on en vend un, on en reconstruit trois. Bon, les choses étant ce qu'elles sont, tout le monde connaît la situation actuellement. Aujourd'hui, on est plus sur 1/2. Mais la raison fondamentale pour un bailleur que d'arbitrer son patrimoine n'a pas changé. C'est continuer à se développer et puis aussi employer une partie de ces fonds-là pour rénover le parc locatif restant, parce que ils ont aussi des ambitions de rénovation énergétique assez importantes.
Dernière question,
oui,
parce que je sais que votre temps est compté.
Non, mais tout
l'immeuble, qui est en bloc, détenu par le bailleur social, devient demain une copropriété.
Absolument.
Donc il y a une mise sous règlement de copropriété. Est-ce que le bailleur peut... Ils vont forcément tout dans l'immeuble, ou est-ce qu'il peut aussi, s'il y en a qui veulent continuer à rester locataires, avoir quelques locataires dans l'immeuble?
Alors là aussi,
ou est-ce que la condition, c'est forcément vous devez vendre l'immeuble?
Non. Là aussi, c'est fonction de beaucoup de paramètres, et notamment d'un paramètre important qui est le maire ou la collectivité qui octroie les autorisations. Parfois, il se peut que la collectivité donne un feu vert pour vendre, parce que le bailleur a besoin de solliciter ces accords-là, je fais très simple, mais que pour avoir cet accord-là, la condition c'est « Ok, vous avez le droit de vendre, par contre vous n'en vendez que 49% de manière à rester majoritaire dans la copropriété. » Ça arrive.
Mais et ils deviennent copropriétaires du coup.
Absolument, même. Absolument.
D'accord.
Ce n'est néanmoins pas la règle, souvent ils sont copropriétaires et le but c'est de sortir de la copropriété afin que celle-ci puisse voler ses propres ailes. Et souvent ils font appel à Quadral pour gérer cette
alors,
copropriété.
Alors justement, demain, on vous dit, voilà, je prends un exemple, au siège, vous êtes à Metz, un immeuble que vous avez vendu intégralement à ses occupants. Est-ce que vous les aidez à créer le conseil syndical, que vous mettez en place le règlement de copropriété et qu'éventuellement vous seriez aussi dans le groupe une division syndic pour gérer?
Alors, effectivement, au sein de Groupe Quadral, on fait beaucoup de choses et parmi les services que nous proposons, il y a une structure qui s'appelle Quadral Property et dont le métier est de faire de l'administration de biens pour le compte institutionnel. Et pas que, mais beaucoup pour les bailleurs sociaux. Donc, on les accompagne effectivement relecture de règlements de copro, etc.
Est-ce que vous faites du syndic, du
coup? Et on fait du syndic, absolument.
Alors, vous êtes aussi syndic?
Nous sommes syndic. On gère actuellement, juste sur Quadral, 23 000 lots en syndic.
Alors, promis, c'est ma dernière question. Dernière question, si le locataire qui a acheté décide de partir, est-ce qu'il peut garder son bien et le mettre en location?
Oui, ça, c'est une possibilité qui est prévue par la loi.
D'accord.
Et ça, c'est tout à fait possible.
Donc, le locataire occupant devient propriétaire.
Oui.
Une raison X ou Y, il veut pas le revendre après, mais il veut le garder en patrimoine, parce qu'il va ailleurs, par exemple, où il est muté.
Oui.
Est-ce qu'il a le droit de le loger,
Il a le droit de le relouer en respectant certaines contraintes, notamment un plafond de location.
Le prix.
Absolument.
Mais il peut.
Mais il peut. C'est tout à fait. De même qu'il a le droit de le revendre.
Okay. La loi l'oblige pas à rester propriétaire.
Non, parce qu'il y a quand même dans ce pays un droit qui est fondamental et sacré qui s'appelle le droit de propriété.
Absolument.
Alors là, vu qu'on a eu des décotes par ailleurs, que c'est pas tout à fait un bien qui a été acquis au prix de marché, il y a quelques contraintes que l'ancien locataire et nouvel accédant doit accepter, mais c'est. C'est timé dans le temps. Donc, et de toute façon, nous les accompagnons sur ce volet-là. Il n'est pas rare qu'ils nous rappellent pour dire « mais je veux vendre, comment je fais ?» etc. Et on les accompagne.
Donc finalement, en amont, vous travaillez sur les appels d'offres avec des gros institutionnels.
Oui.
En aval, vous vous occupez des locataires occupants, vous les accompagnez de A jusqu'à Z.
Oui.
Et ensuite, une fois, quel que soit le devenir du bien, vous avez des offres en matière de property, en matière de syndic de copropriété, voire même de revente du bien si la personne revend du bien.
Il se peut.
Vous faites une boucle complète. C'est un savoir-faire spécifique.
C'est un savoir-faire spécifique, mais au-delà de ça, on essaie de proposer à nos clients bailleurs une solution où finalement, un peu comme eux, parfois, là, ils ont des locataires qui rentrent, qui sont étudiants et qui commencent leur parcours résidentiel jusqu'à devenir presque retraités. Et quand certains bifurquent, ils les perdent un peu de vue et il leur faut un partenaire pour reprendre en main ces gens-là et s'assurer qu'ils ne sont pas dans la nature. Bien évidemment, ils sont autonomes. Bien évidemment, on les appelle pas tous les jours, mais quand ils ont besoin de nous, nous sommes là. Le syndic, c'est une autre forme ensuite de rapport à la propriété, de rapport à l'immeuble. Pour beaucoup de bailleurs, c'est rassurant que de savoir que l'opérateur qu'ils ont choisi pour vendre le bien est encore là via un autre de ses services pour continuer à accompagner tout le monde.
Merci beaucoup.
Merci. Je souhaiterais juste,
si tu
le permets,
bien sûr,
faire une petite dédicace à un ami à moi qui était au micro à côté de moi avec lequel j'ai eu la joie et le plaisir d'animer certains podcasts. C'est Cyril Gonzalez Rocher, qui est le président de Comop aujourd'hui, qui n'est pas là, qui était là tout à l'heure, que je voyais.
Qui était à une époque
chez Transactif,
chez Transactif,
qui a monté sa propre structure avec beaucoup de succès et de talent.
et qui a remonté un truc. Et d'ailleurs, je me souviens qu'à une époque, tous les deux, vous animiez une série de podcasts.
Mais exactement.
Il y a quelques temps, où là, ça remonte à...
Ça remonte à 2-3 ans.
À 2-3 ans. D'ailleurs, je réitère l'invitation. Vous devriez, mon cher Kamel, réitérer. Parce que je vois une... Non, mais je vois surtout une progression. Vous maîtrisez parfaitement. On a besoin de gens qui maîtrisent le sujet. Et le logement des Français est une priorité nationale. Et aujourd'hui, quand je vois... puisque j'ai eu le plaisir d'animer beaucoup d'opérations pour le compte du groupe Action Logement, par exemple, entre autres, et puis j'ai quelques amis qui dirigent aujourd'hui des très gros bailleurs sociaux, qui nous disent effectivement la raison, c'est le logement des Français. Et il y a dans le mécanisme du logement des Français, il y a une double vertu finalement pour le bailleur social. C'est, on n'imagine pas la fierté que l'on peut avoir d'accéder à la propriété.
Ça, c'est clair.
On voit une amélioration de l'entretien de l'immeuble qui est très net.
Oui.
Alors, je veux pas critiquer les locataires, bien évidemment, c'est pas le but, mais on voit bien que le fait de devenir propriétaire se préoccupe aussi des communs comme des parties privatives. Mais bon, il y a aussi un autre effet, c'est que ça permet aussi à des bailleurs qui, du coup, avoir un peu plus de liquidité.
Absolument.
Et d'arbitrer, de réinvestir aussi.
Oui.
Et d'accompagner les Français qui en ont besoin, parce que le parcours résidentiel, c'est une boucle. Hein.
Absolument.
On est locataire, on n'est pas destiné à rester locataire toute sa vie.
Et les bailleurs sociaux sont un acteur plus qu'important. Aujourd'hui, on est en termes de production de logement, on est à 50 000.
D'ailleurs, très bas. Nous, vous n'êtes pas très nombreux à faire ce que vous faites. Hein,
nous ne sommes pas très nombreux. Et effectivement,
parce que c'est un marché très spécifique. Hein.
Très franchement, l'accession sociale, c'est 10 000 ventes par an. Donc, rapporter,
quand même, hein, ouais.
Combien même ça baisserait, on terminera, j'espère, nationalement, à 750 000 transactions. On ne représente que 10 000.
Oui.
Sur ces 10 000-là, effectivement, on a la chance d'être, oui, un acteur important.
En fait,
important.
Vous êtes ce qu'on appelle sur une niche de marché avec, oui, un vrai savoir-faire technique, bien évidemment. Et alors, juste, vous, terrain de jeu national. Hein.
National, bien sûr.
D'accord. Dans toutes les régions, on peut trouver...
Y compris, encore pas si longtemps, jusqu'en Martinique, pour le compte d'une structure d'action logement, aux ANAM, pour ne pas la citer.
Merci beaucoup, Camille Lavia. Je rappelle que vous êtes le président directoire du groupe Quadral. On retrouve Quadral, d'ailleurs, sur Internet. Regardez, c'est très intéressant. Et bien, il pratique quasiment tous les métiers. Voilà.
On fête nos 20 ans tout à l'heure à 17h, n'hésitez pas.
Voilà, pour stand Q10. Stand
Q10.
Si vous voulez y aller, c'est très bien. Vous ne serez pas nombreux, on sera que 500 ou 600 à y aller. Vous avez intérêt à préparer le stock. Vous avez intérêt à préparer le stock.
C'est les 20 ans, donc on a tout préparé.
Merci, on vous souhaite un excellent congrès USH.
Merci
on
également.
On se retrouve tout à l'heure pour la suite de notre programme.
Encore merci beaucoup.
Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier, en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Sepia sur Radio Immo et Radio Territoria.